française.
Latina.
Hola, ¿qué tal? Bonjour.
La franco-latina.
Bonjour, bienvenue sur le boulevard franco-latine, encore une fois, en direct de la maison de l'Amérique latine à Paris. Ce rendez-vous avec l'actualité et les échanges et l'amitié entre la France et l'Amérique latine. Aujourd'hui, il va être beaucoup, beaucoup question de musique. Par exemple, de cette musique que nous entendons en ce moment même. Ça s'appelle Contra Viento y Marea, contre vents et marées, et son créateur, c'est le musicien argentin Tomás Gubic. Tomás Gubic qui va être notre compagnon de route pendant ces boulevards franco-latino. Bonjour Tomás, bienvenue.
Bonjour Eduardo.
Alors, si mes calculs sont bons, ça fait une bonne trentaine d'années que tu es en France, toi.
Exactement, 32,
c'est ça.
Oui, oui, on compte ces années. Hein.
Parce que je me souviens toujours de ta biographie, quand on la lisait, elle disait « Il est arrivé venu à Paris en 1977, dans l'orchestre, avec Astor Piazzolla, patati, patati, patata. »
Exact, exact.
Et tu es resté pour de bon, quoi.
Je suis resté pour de bon, oui, en 77, c'était une époque un peu sombre pour nos pays d'Amérique latine et disons que l'air de liberté qu'on respirait à Paris était extrêmement tentant.
Avant de venir à Paris, avant de jouer avec Astor Piazzolla, tu étais plutôt dans le monde du rock, non ?
J'ai toujours un peu évolué dans plusieurs mondes, dans la mesure où je venais d'une formation plutôt classique. De par ma famille, c'était la musique qu'on écoutait chez moi. Ensuite, j'ai connu Rodolfo Mederos, qui était à l'époque une sorte de continuateur de la lignée de Piazzolla. Donc je suis rentré un peu dans le monde du tango, chose qui n'était pas courante pour ma génération, pour laquelle le tango était grosso modo la musique des vieux. Et notre musique, disons ma musique générationnelle, était celle un peu issue des Beatles et compagnie, qui a donné le mouvement du rock au sens le plus large. Où effectivement, j'ai eu la chance de jouer dans un groupe qui s'appelait Invisible, qui était le groupe le plus connu d'Argentine, très jeune, quoi. Voilà, j'avais 18 ans, je crois.
Est-ce que ça veut dire que Piazzolla était quelqu'un qui était très ouvert au moment de choisir ses musiciens? Il était particulièrement sensible ou tu étais un super bon élève qui était aussi bon au tango qu'au rock?
J'ai jamais été un bon élève. C'était difficile d'être un bon élève à cette époque-là parce que c'était accepter une quantité des choses qui étaient inacceptables. Non, je pense que ça correspond à une période particulière de Piazzolla. C'était celui qui a été appelé l'octeto electronico, où c'était une sorte de rapprochement de Piazzolla avec le rock et le jazz rock, je pense, où il était à la recherche des musiciens plus jeunes, précisément issus d'autres cultures, ou en tout cas ouverts à d'autres cultures. Une période qui n'a pas duré très longtemps chez lui, mais qui était, je pense, intéressante, où il y avait aussi des synthétiseurs, enfin les débuts des synthétiseurs, et de la guitare électrique, de la batterie, etc. etc. Donc il a créé une sorte de passerelle où on pouvait se rencontrer, je pense. Voilà.
Évidemment, tu l'as dit, l'Argentine de 1977 n'était pas de celles qui donnent envie de revenir tout de suite. C'était des périodes donc de dictature. Et j'imagine que ça frappait aussi le monde de la musique, c'est-à-dire frappait probablement aussi bien le citoyen Gubic que le musicien Gubic. Pourquoi la France a été un endroit où tu as voulu ou décidé de rester? C'était plus simple? Tu avais une attraction particulière?
Au départ, mon idée, c'était de partir, mais pas forcément de venir en France. Mon idée, disons, mes mecs étaient plutôt Londres ou New York, je pense. Et en fait, on est arrivé en France avec Piazzolla, on a donné une série de concerts à l'Olympia. Et puis, j'ai remarqué qu'il y avait à Paris, en tout cas à l'époque, une très très grande ouverture justement pour tout ce qui était issu des cultures d'Amérique latine. Il y a une longue histoire entre le tango, qu'il soit traditionnel ou qu'il soit plus actuel, et Paris. Il y a vraiment une longue, longue histoire. Je pense que le tango, sans son passage au début du dernier siècle par Paris, peut-être qu'il n'aurait pas été. Et c'était l'endroit où on pouvait faire ce que je souhaitais, c'est-à-dire continuer à travailler sur une musique apparentée au tango, sans qu'elle soit traditionnelle, bien sûr, et chose qui n'était pas possible en Argentine, où la répression, comme tu le disais très bien, était tous azimuts, et elle frappait de façon extrêmement bête. Et cette bêtise-là, elle est terrible parce qu'elle est imprévisible, c'est-à-dire qu'avec les groupes avec lesquels je jouais, un jour on était interdit à la radio, le lendemain on pouvait passer à la télé, le surlendemain on était à nouveau interdit, ainsi que Garvel avec des guitares, par exemple. Donc c'est cette bêtise-là propre à certaines dictatures qui contribue, disons, au climat de terrorisme, je pense.
Comme les Beatles n'ont pas dit dictature et bêtise, ce sont deux mots qui vont très bien ensemble.
Oui.
Quels sont tes rapports avec les frères ennemis brésiliens et leur musique? Parce que je vais t'inviter à écouter une brésilienne, là.
De toute façon, tant qu'ils font de la musique ou qu'ils jouent au foot, surtout quand ils ne jouent pas contre nous, je suis fan.
Elle s'appelle Seu. Seu. Elle est talentueuse, elle est belle. Et puis la chanson s'appelle Comadi.
A Comadi é ponta de lança. Às vezes se amua com tamanha herança. A comadre é ponta de lança. Thank you.
Elle s'appelle Seu. Seu, et le thème s'appelle Comadi, et vous êtes sur le boulevard Franco Latino, en direct de la Maison de l'Amérique latine à Paris, où nous partageons un moment de conversation et des musiques, au singulier et au pluriel surtout, avec Thomas Gubitsch, musicien argentin, et musicien argentin qui fait partie d'une tribu parmi d'autres qui existe déjà, quoi, 2 ou 3 ans, le Buenos Aires sur scène.
Buenos Aires sur scène, c'est en fait un projet qu'on a commencé, c'est un collectif, hein, on est nombreux à en faire partie, oui. Disons essentiellement, ouais, à l'organiser, ouais. Qui part de l'idée tout simplement de créer un espace à Paris pour les nouvelles expressions des musiques, essentiellement provenant d'Argentine, parce que le titre Buenos Aires sur scène, il est un peu restrictif dans la mesure où en Argentine, il y a d'autres musiques à part le tango. Mais disons qu'il y a quand même une assez forte coloration de tango, mais à cette condition près, c'est qu'il faut que ce soit des choses qui sont faites maintenant. Il ne s'agissait pas d'un espace ni pour le tango traditionnel, ni pour le tango qu'on danse, qui sont des disciplines contre lesquelles on n'a rien, mais qui possèdent déjà leurs espaces, y compris Piazzolla, qui a été maintenant, disons, globalement, universellement reconnu. Là, il s'agit plutôt de créer un espace pour ce qui s'est fait maintenant, curieusement, en France, bien qu'il y a des échanges, mais c'est vrai qu'il y a une longue histoire entre le tango et Paris et qu'elle continue, et qu'une bonne partie des choses nouvelles ou novatrices qui se font dans ce genre de musique, elles apparaissent ici en ce moment.
Oui, parce que justement, ce que je me disais en lisant la liste des gens qui font partie de ce collectif, c'est qu'effectivement, il y a des noms qu'on découvre, et puis il y a les vieux de la vieille, ceux qui sont comme toi, en Klaus, en Paris, depuis belle lurette, quoi. Donc, je pense, parmi les vieux, tu m'excuseras, c'est une façon de dire, les plus anciens, on va dire.
Je ne t'excuse pas du tout.
Ou ceux qui sont jeunes depuis plus longtemps.
Oui.
Mussolini, oui. Je pense à Gustavo Beitelman.
Absolument. Enfin, justement, le 26 novembre dernier, on a fait un concert précisément avec Juan José Mussolini, père, avec qui on s'est retrouvé après des très longues années, puisque effectivement, les premiers projets qu'on a fait en France, je parle de la fin des années 70, c'était avec lui. Mais c'est précisément ça l'idée, c'est-à-dire que les vieux de la vieille, comme tu les appelles, à mon grand regret, je ne sais pas si on peut dire qu'on parraine, mais en tout cas, on laisse la possibilité aux autres, justement, de se montrer et de profiter du public que nous, on peut avoir. Précisément parce qu'on ne l'a pas eu, nous. Et je pense que c'est important d'y remédier et de considérer ce qu'on fait comme étant simplement un maillon d'une très longue chaîne, d'une musique qui a existé avant nous et qui existera après nous. Et que c'est important que cette transmission, disons, générationnelle continue et soit fomentée, en fait.
Ça, c'est donc sur le plan conceptuel, musique, du projet Buenos Aires sur scène, ou Buenos Aires sur scène, enfin. Pratiquement, c'est tout le... Un jeudi par mois, c'est ça ?
Pratiquement, c'est 2 jeudis par mois. Le premier et le troisième jeudi du mois. Et l'idée, c'est qu'il y a toujours un concert avec 2 parties sans qu'il y ait une question de hiérarchie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de première et de deuxième partie, mais ça tient plus à des questions pratiques d'organisation de la scène. Et qu'il y ait des choses qui soient contrastantes, qu'il y ait des choses qui... En fait, c'est 2 concerts en un, en quelque sorte. Mm-hmm. Et nous tenons à conserver cela, justement, pour montrer la multiplicité des visions qu'il y a autour de cette musique, où finalement, depuis longtemps d'ailleurs, chacun fait son tango, ou chacun fait son folklore, et qu'ensuite, le folklore ou le tango l'incorpore à son histoire ou pas. Mais c'est cette possibilité, justement, de rendre une vision personnelle des compositeurs et des musiciens actuels par rapport à ces musiques-là.
Il faut dire que donc ça se passe à l'Ermitage, dans
de l'Ermitage,
le 14e.
8 rue de l'Ermitage, voilà.
Voilà, dans le 14e. Et de toute façon, vous avez...
Dans le 20e.
Ah, dans le 20e, excuse-moi. Et je voulais juste rappeler, donc, que pour tout ce qui est détail, vous pouvez toujours aller sur le site de la Franco Latina, l'agenda de la Franco Latina, vous donnera les détails, les horaires, et puis les plateaux de ces jeudis tango dans le cadre de Buenos Aires sur scène. Nous avions commencé, je vous le disais tout à l'heure, avec un thème composé et interprété par Thomas, qui s'appelait Contravento si Marias, mais que celui-là est un thème plutôt, entre guillemets, ancien.
Oui.
Et là, tu as choisi 2 ou 3 thèmes nouveaux, parmi lesquels un que j'ai entendu, j'ai vu le titre du thème, ça s'appelle « A estos hombres tristes », à ces hommes tristes. Il n'est pas vraiment triste du tout. C'est assez foisonnant en même temps, ce thème.
En fait, c'est un morceau d'un groupe de rock argentin des années 60 qui s'appelait Almendra, qui était à l'époque, pour nous tous, je parle de ma génération, une espèce de bouffée d'air frais au milieu d'un univers très en noir et blanc, très gris et très répressif. Et il y avait cette faille dans le système où il y avait le rock dont personne s'occupait, qui passait pas à la radio et qui en même temps s'est répandu comme vraiment de façon incroyable dans ma génération. Et là, j'ai voulu rendre hommage à ce thème. Et d'ailleurs, ça ressemble quelque part plus parce que ce qu'on va faire jeudi prochain au Comedy Club est en fait encore une fois une rencontre transgénérationnelle dans la mesure où je vais jouer avec deux de mes enfants, plus un invité de luxe qui est Nicolas Repac. Cette fois-ci, pas du tout pour faire du tango, mais pour faire d'autres musiques, parce que voilà, on a la chance d'être des musiciens polyglottes et on aime bien se balader dans plusieurs territoires.
Thank you.
Longue résonance pour la fin de Estos Hombres Tristes.
Il faut laisser le son exister.
Il y a des choses qui se passent dans la fin des notes où il y a des harmoniques qui surgissent, inattendues.
Uh-huh.
Et en fait, je pense qu'on passe notre vie à être à la recherche de l'inattendu.
Aujourd'hui, tu te plais plus dans l'interprétation, dans la composition, dans l'arrangement?
Ça a été pendant très longtemps un conflit, cette histoire d'avoir ces multiples casquettes, d'être chef d'orchestre, d'être compositeur, d'être guitariste et tout ça. À tel point que parfois je cachais dans différents milieux où j'évoluais, quand je dirigeais des orchestres, je leur disais pas que je jouais de la guitare, qui plus est électrique. Et vice versa d'ailleurs, parce qu'il y a une quantité de préjugés dans chacun des milieux où l'autre est toujours à craindre et donc à mépriser. Et puis là, l'âge aidant, je me dis, et puis qu'ils se débrouillent avec leurs préjugés, ce ne sont pas les miens. Et puis, ouais. Disons, la partie qu'on peut connaître de la musique, même quand on est un musicien soi-disant cultivé, est tellement infime par rapport à la musique en général, que le peu de musique qu'on pratique, bon ben voilà, il ne faut pas s'en priver.
À propos des frontières qui s'abattent entre les métiers de la musique, entre les genres, dans les arts en général, on va parler maintenant de quelque chose que j'ai eu l'opportunité de découvrir pas plus long que hier soir à Paris. Il s'agit d'une pièce, disons, d'une création, disons, d'une troupe qui est dirigée par le Chilien Juan Carlos Sagal, un ancien de la Tropa, qui est une troupe qui a été déjà assez connue en France, notamment, entre autres choses, par sa capacité d'innovation. Et Juan Carlos Sagal, maintenant qu'il suit sa route toute seule avec une compagnie qui s'appelle Teatro Cinema, ne dément pas à cette tradition de créativité dans cette création qui s'appelle Sin Sangre. Je vais arriver à le dire, peut-être sans sang, pas de sang, je veux dire. Voilà, Sin Sangre. Et est arrivé pour en parler avec nous Étienne Bomeritz. Bonjour Étienne.
Bonjour.
Qui fait partie donc de cette création qui est proprement hallucinante, je dois dire. Hallucinante d'une part par la forme, c'est un mélange de théâtre dans le sens où il y a des acteurs qui sont sur ce qu'il faut appeler une scène, hein. Mais il y a en même temps du cinéma, et mieux, je dirais que dans la fameuse Rose pourpre du Caire, où on avait vu dans les films de Woody Allen des gens du monde entre guillemets réel entrer dans le cinéma, cette fois-ci, les acteurs sont dans le cinéma. Ils sont incorporés là, à l'image. Hein. Ils jouent dans le cadre qui est projeté, et c'est assez passionnant. D'autant plus que, tout au moins c'était ce qui m'est arrivé, 10 minutes après, quand on s'est plus ou moins émerveillé de ces jeux, on oublie qui est peut-être la réussite la plus importante et on entre dans l'histoire qui, elle, c'est, il faut dire, une histoire écrite par l'Italien Alessandro Varico, auteur donc de Sin Sangre que cette compagnie a adapté. C'est vraiment une grande aventure que vous avez lancée là, Étienne.
Ben, en fait, c'est une grande, grande aventure. L'aventure a commencé déjà, ça fait 3 ans. Depuis qu'on a commencé à écrire, à faire la transcription du roman, un script de cinéma.
Parce qu'au départ, ce n'est pas une pièce de théâtre, c'est un roman.
Oui, c'est un roman, d'après Alessandro Varico. Et avec sa permission, nous a permis de faire une transcription, le réécrire dans un format et dans un langage cinématographique. Ça, c'était la première partie du travail, que c'était très long et très... Il fallait pas seulement écrire les dialogues, les réécrire, sinon avoir l'idée et la...
Un découpage
des scènes, scène par scène, setting par setting, tu vois. Alors c'était un long travail.
Cette pièce, elle a été jouée au début au Chili?
Oui. La première saison, on a fait 7 mois au Chili, à Santiago. Uh-huh. On était plein presque tous les soirs. Et c'était vraiment un choc pour tout le monde. C'était un vrai succès. Vraiment, on n'attendait pas trop de succès, mais c'était un grand succès. Avec beaucoup d'efforts, on a dû retarder le
départ de la tournée.
Le départ de la tournée parce qu'il y avait des choses qu'on n'y arrivait pas, parce que c'était trop compliqué d'essayer de faire un nouveau langage.
Oui, justement, c'est la question que je voulais te poser à toi, l'acteur. Comment ça se passe? Parce que j'imagine que quand on joue sur une scène, entre guillemets, on va dire maintenant normale, il y a une façon de bouger, il y a une façon... Voilà, et cette fois-ci, il faut rentrer dans un cadre.
Voilà, pour nous, c'était un grand apprentissage, parce que c'est surtout en même temps qu'on est dans une émotion, que ton personnage est dans une émotion... c'est un drame, tu vois. Alors, les personnages souffrent, il y a des morts et tout. Mais en même temps, quand la lumière s'en va, il faut changer le setting, tu deviens un technicien, quoi. Et tu dois bouger, prendre une table, la bouger, la faire tourner. Et puis, quand la lumière arrive encore, tu es dans le personnage, tu es dans l'émotion. Alors, c'était un exercice actoral très compliqué, mais à la fois qui enseigne beaucoup, qui apprend beaucoup. À moi, au moins, ça m'a appris beaucoup.
Est-ce que, et la question, peut-être, je peux la poser à tous les deux, en fait, à Thomas pour la musique, à toi pour les jeux actoraux. Est-ce que cette, entre guillemets, économie de la création artistique qui oblige justement à être, comme on dit en France, au four et au moulin, a quelque chose d'intéressant, même si au départ, on s'est dit, mais non, attends, je suis là pour jouer, soit la guitare, soit mon rôle. Tu ne vas pas me faire déplacer une table ou tu ne vas pas me faire déplacer un ampli. Comment vous vivez ça? Tu en as parlé déjà un peu, Thomas, par rapport à tes trois rôles, compositeur, arrangeur, directeur d'orchestre et guitariste, mais comment ça se passe? Est-ce que finalement, le métier est une seule chose, de la création à la mise en place?
Je pense qu'il y a les questions techniques, disons, non, effectivement, du déplacement des choses, enfin, tout ce qui est d'une certaine matérielle, d'une certaine façon matérielle, mais il y a pas que ça. Je pense qu'il y a un changement quand on fait un certain type d'activité artistique qui ne rentre pas forcément dans les circuits les plus commerciaux, où malheureusement, je dirais, on a été obligé d'avoir une sorte de prise de conscience, parce que ça va plus loin, ça va jusqu'à la communication, qui était un paramètre que moi en particulier, quand j'ai commencé, je n'avais absolument pas, qui ne m'intéressait absolument pas, et pour moi, disons, notre métier c'était de faire ce qu'on savait faire et à d'autres de le communiquer. Je pense que la réalité a fait que précisément notre rôle dans cette réalité nous soit tombé sur la tête et peut-être que c'est pas si mal finalement.
Oui, moi aussi je pense que c'est, il y a une grande différence entre jouer dans un plateau que une personne X a construit et sur un plateau que toi-même tu as construit, tu vois. Faire un travail comme ça aussi intégral où on fait tous plus ou moins la même chose. Les techniciens qui montent avec nous, les comédiens, on monte aussi la structure. À ce moment-là, on est tous des techniciens. Mm-hmm. Et au moment de la pièce, le régisseur de lumière, le régisseur du son, le régisseur de la vidéo, tu vois, ils deviennent aussi des comédiens. Parce que c'est une horloge, la pièce est une horloge. La musique va avec l'image, l'image va avec la lumière. Si la lumière n'arrive pas avec la vidéo, ça ne fonctionne pas, tu vois. Alors, on est tous communiqués pendant toute la pièce. Alors c'est cette intégrité qu'il y a dans Sin Sangre, c'est ce qui fait que c'est pas trop la vidéo, c'est pas trop l'impressionnant, c'est comment tout bouge constamment pendant toute la pièce, on est tous communiqués et ça fait un travail rond, qui roule et qui va jusqu'à la fin, tous ensemble.
Quand on part, toi par exemple, raconter quelque part, bonjour, je viens vous proposer quoi ? Un spectacle, puisque ce n'est pas une pièce de théâtre, ce n'est pas juste un film.
C'est un spectacle, on pourrait dire que c'est un spectacle. Mais je pense que le fait qu'il y a des comédiens en scène, c'est plutôt une pièce de théâtre, où on pourrait dire que c'est un film avec des comédiens en scène. Comme un film qui est, à chaque jour, chaque représentation, c'est une nouvelle édition du film.
C'est intéressant.
C'est très intéressant, ça.
Vous faites des registres à chaque fois ou vous préférez ces côtés éphémères qui fait que finalement...
C'est ça ce qui fait que ça soit du théâtre et pas du cinéma. C'est tous les jours différent, tous les jours.
C'est en français ?
En espagnol et surtitré en français.
D'accord.
Thank you.
C'est un trompettiste de jazz, rioplatense on dirait, et il s'appelle Diego Urcola et il nous accompagne là pendant notre agenda. Notre agenda, ou la première chose qu'on va dire avant qu'on l'oublie, c'est que le spectacle Sin Sangre, donc il est à Paris actuellement au moment où nous enregistrons cette émission, mais il va partir en tournée en France et à partir du mois de janvier. Ils vont commencer l'année 2010 à Cahors, le 8 janvier, et puis il y a une tournée qui dure au moins tout le mois de janvier. Il va se terminer, aux dernières nouvelles, à Bretigny-sur-Orge. En tout cas, je vous rappelle, tous les détails sont sur l'agenda de la Franco Latina. Je vous rappelle aussi ce qu'on a déjà plus ou moins dit. Thomas Gubitsch sera pour un jeudi, pas seulement au Four et au Moulin, mais peut-être sur deux scènes. Tu joues demain soir aussi ?
Tu veux dire à Benazir sur scène ? Non.
À Benazir sur scène.
À Benazir
mais
sur...
tu vas être avec deux enfants. Je savais d'un, mais il y en a deux qui font de la musique aussi.
Il y en a au moins deux. Il y en a d'autres qui suivent derrière, mais bon, je les laisse un peu patienter. C'est une vieille idée qui était celle de monter sur scène sans savoir ce qu'on va faire, qui est absolument le contraire de ce que je fais habituellement, où il y a plein de partitions partout et tout est prédéterminé, extrêmement travaillé, très minutieusement préparé. Là, l'idée, c'est justement, autant pour nous que pour le public, de ne pas savoir ce qui va se passer.
Alors, en voyant un peu l'annonce que tu as fait circuler, évidemment, avec ta coquetterie habituelle, c'était Thomas Gubitsch and Sons et enfants, et ses enfants, à moins que ce ne soit pas le contraire.
Oui, c'est une chose que je ne saurais jamais.
Et puis, il y a un invité, un homme du monde de la musique, un personnage très intéressant.
C'est un grand musicien qui s'appelle Nicolas Repac et qui nous fait vraiment l'honneur de venir jouer avec nous, qui est un improvisateur absolument incroyable, et c'est encore quelqu'un de totalement imprévisible, et ça fait partie de cette histoire très ponctuelle. Voilà.
C'est au Comedy Club, dans le cadre de ces soirées animées par ces grands personnages de la franco-latinité musicale qui est Rémi Colpacopullo. Je voudrais vous signaler aussi que, toujours du côté argentin, il y a cet autre fou assez magnifique, et Alfredo Arias, qui est actuellement, non pas avec une pièce, mais avec trois pièces simultanément au Théâtre du Rond-Point, où il est beaucoup question de tango, de cabaret, etc. Ce sont trois pièces qui passent à des moments différents. Je vous propose de retrouver toujours les détails dans l'agenda franco-latina. C'est jusqu'au début janvier. Jusqu'au janvier aussi, les expositions qu'il y a ici même à la Maison de l'Amérique latine, les expositions de peinture du Nicaraguayen Bernardo Dreyfus, et puis les expositions de photos de notre amie Elena Chicosi, qui était avec nous dans une autre édition du Boulevard Franco-Latino, un reportage qu'il a fait aux îles Galapagos, un reportage différent. Ce n'est pas des Galapagos de carte postale, mais un autre Galapagos très intéressant à visiter jusqu'au 22 janvier ici à la Maison de l'Amérique latine. Et pour finir cet agenda, je voudrais vous signaler qu'il y a la sortie du film chilien Guacho, un film qui est un peu dans la lignée de films argentins de Carlos Sorín, dont notamment Bombón el Perro, des films qui ont entre autres la particularité d'être faits avec des acteurs qui ne sont pas professionnels, voire avec les personnages eux-mêmes sur lesquels on est en train de raconter une certaine histoire. Guacho est sorti déjà sur les salles de cinéma en France et vous pouvez trouver encore une fois les détails sur les sites de la Franco Latina.
Tu calorie hilo moro tu dilie ni laftu ni laftu calorie hilo moro tu dilie
lato cagliorie il moro tu di lì
Alors, si vous n'avez rien compris à la langue qui est chantée, le chanteur qui a interprété ce thème, c'est normal parce que ce sont des Serbes qui font de la salsa. C'était Vlada Maricic Trio in France et le thème s'appelait « Ah, Romigné ». On aime beaucoup ça dans le boulevard, ces mélanges, ces rencontres, ces croisements. On a passé d'ailleurs, vous vous souvenez, dans un boulevard précédent, un groupe chilien qui fait du klezmer. On parlait l'instant des mélanges de frontières, des cloisons qui tombent. Thomas, tu as joué et travaillé beaucoup avec des musiciens un peu de partout, y compris des Européens un peu de partout. Est-ce que c'est une expérience que tu fais toujours ?
Bien sûr, non, parce que je pense que chacune de ces activités, en fait, enrichit l'autre, de fait. C'est-à-dire qu'il y a des logiques différentes, y compris, on parle des musiciens, mais pas seulement, quand je travaille avec des chorégraphes, etc., etc. Disons qu'il y a des façons de penser l'art de chacun qui incluent des paramètres qui ne sont pas forcément les nôtres, ceux des musiciens, qui fonctionnent grosso modo en temps, en son, en fréquence, etc., etc. Quand on travaille avec des gens de théâtre ou des gens de la danse, il y a toute la notion d'espace qui apparaît, par exemple, qui n'est pas une pensée, automatique pour un musicien, mais qui génère d'autres réflexions qui peuvent être appliquées, transformées, traduites en musique et qui sont extrêmement enrichissantes. Donc, tous ces contacts de façon, je dirais, presque générale avec l'autre et avec les autres façons de penser sont toujours extrêmement, extrêmement enrichissantes. Je pense d'ailleurs que la culture, c'est exactement ça, ouverture à l'autre. Il s'agit essentiellement de ça, il ne s'agit pas de la culture encyclopédique ou de celle qui fait briller en société, mais celle plutôt qui permet d'être compris et de comprendre l'autre.
On a parlé du moment où tu es venu en France, 1977. Par contre, on n'a pas parlé, c'est quelque chose qui m'a touché lorsque j'ai appris qu'en fait, tu n'es pas revenu en Argentine, mais très très longtemps après, c'est-à-dire la dictature était heureusement partie depuis longtemps. Est-ce que tu as gardé ces plaisirs ? Tu l'as retardé ? Est-ce que tu avais des appréhensions ? Ça a été un voyage compliqué à préparer ?
Je ne suis pas rentré pendant 28 ans, en fait. Ouais. Je pense que plus que des notions de plaisir ou de préparation de quoi que ce soit, on pourrait parler de névrose. Mais en même temps, c'est vrai que les retours, parce qu'il y a eu un premier retour en 2005, puis un autre en 2006, et là, tout récemment, hein, en 2009, c'est des expériences extrêmement fortes pour moi et extrêmement émouvantes, d'une part parce que faire cette musique est quand même issue de cet endroit, la refaire dans son lieu d'origine, après toute la transformation de ce voyage que je mène pendant ma vie, est une confrontation qui est très forte. Ensuite, parce que, contrairement à ce que je pensais, les gens ne m'avaient pas oublié là-bas. Je ne les avais pas oubliés non plus. Et ensuite, je pense que c'était récupérer une grande partie de moi, parce qu'on fait, quand on est immigré comme moi, des immenses efforts d'intégration. Et parfois, on s'oublie, ou il y a des choses qu'on oublie de soi-même, et c'est bon de se les rappeler, voilà.
Et est-ce que depuis tes retours, ton travail avec l'Argentine est plus fluide, tu es plus présent ?
Il pourrait l'être de toute façon, disons que c'est moi aussi qui arrête un petit peu, parce que pour tout avouer, la dernière fois, on était les invités d'honneur du festival de tango de Buenos Aires, et tout ce genre d'honneur et des récompenses et tout ça, moi ça me fait peur, parce que je me dis, bon voilà, ça y est, je suis officiel, et ma vision, disons, de la création conserve toujours un côté un petit peu plus subversif que ça. Donc, du coup, cette dernière espèce de reconnaissance comme ça nationale m'a un peu dérangé, d'où l'idée de faire des choses un peu différentes.
D'accord, je vois. Étienne, vous avez commencé la tournée internationale de votre spectacle par la France ou vous aviez commencé déjà ailleurs ?
Non, on a commencé ailleurs. On a commencé. La première tournée qu'on a faite, c'était à Mons, en Belgique. Je parle mars 2008. Puis on a continué en Colombie, on a été pendant un mois en Corée, un mois en Italie, on a fait le Brésil, on a fait l'Allemagne,
Est-ce que la réception de la pièce, elle a été très différente, ou tu sens qu'il y a une sorte de perception commune, universelle que...
Oui, il y a des perceptions communes, mais que c'est surtout l'impressionnant de la technique. Là, partout, c'est la folie, il devient fou. Comment vous faites ça? Est-ce que c'est un film? Il y avait un monsieur en Colombie qui voulait l'argent de retour parce que ce n'était pas une pièce de théâtre. On lui disait, mais il y a des comédiens en scène. Il a dit, non, ce n'est pas vrai, vous montez. Vous ne pouvez pas le croire. Mais ça dépend. Il y a eu beaucoup de réactions différentes dans de différents pays. En Asie, ça a été vraiment incroyable. Premièrement, ils ne savaient pas ce que c'était le Chili. Pour eux, on n'était que des Indiens qu'on courait tout nus, tu vois. Et ils se sont rendus compte qu'on avait la technologie et on avait des idées. Et une phrase que j'ai jamais oubliée, c'est qu'ils ont dit, c'est incroyable parce que nous, on a la technologie ici, on a de l'argent, mais on n'a pas les idées. Mm-hmm. On n'a pas l'idée, on n'a jamais pensé à quelque chose comme ça et c'est vraiment impressionnant pour nous. Alors ils étaient vraiment...
C'est un bon compliment quand même.
Ouais, un très bon compliment.
Un Indien avec de bonnes idées.
C'est ça. Un Indien qui accédait au langage.
Oui, tout à fait. Et là, vous êtes en tournée en France, donc on l'a dit, pendant jusqu'au moins jusqu'à la fin du mois de janvier. Et après, vous continuez en tournée.
On va s'arrêter un peu la tournée de Sin Sangre parce qu'il vient les répétitions de la nouvelle pièce. Mm-hmm. Alors, pendant quelques mois, on va arrêter. On va s'installer à Santiago pour construire.
Alors, votre compagnie s'appelle Théâtre Cinéma, et ça veut dire que vous allez continuer à exploiter cette façon de travailler, de mélanger cinéma et théâtre?
Oui, l'idée, Sin Sangre, c'est la première pièce d'une trilogie qu'on veut faire, avec le même système, avec ce langage. Alors, l'idée, c'est à chaque fois aller encore un peu plus loin en relation à les possibilités, à la liberté qui nous donne ce langage, tu vois, de faire ces voyages, des changements de temps et de setting qui permet le cinéma, mm-hmm. mais avec la fraîcheur et le truc vif, tu vois, des comédiens en scène, que c'est très différent.
Bien sûr.
C'est très différent que de voir des comédiens sur un écran et voir vraiment derrière un écran des comédiens sur scène qui jouent avec l'écran, tu vois.
Sin Sangre, c'est donc le titre du spectacle, je vous le rappelle, ça vous a échappé. C'est au Théâtre de la Ville jusqu'au mardi 22 décembre et il est en tournée en France à partir du 8 janvier. Nous allons partir maintenant avec la musique, comme on dit en Amérique latine, con la música a otra parte. Cette fois-ci, c'est à Cuba. C'est l'une des figures nouvelles de la musique cubaine. Il s'appelle X Alfonso et le thème s'appelle Belé.
Bambú, si te pareces a... Empieza el juego. Ajá. Y vele, vele, es tu vele, vele.
Alfonso, il est cubain, le thème s'appelle Bubele, et puis comme on peut voir, à Cuba on n'écoute pas tout le temps de la salsa, il y a aussi d'autres musiques, c'est ce qui est bien d'ailleurs dans tous les univers musicaux, d'avoir des musiciens ouverts à toutes les techniques, à toutes les influences, ça enrichit. On dit ça comme ça parce que évidemment on est toujours un peu assez méfié des intégristes de tout poil. On était en train de discuter, Étienne, hors antenne, à propos de un peu des coulisses du travail d'un spectacle comme Sin Sangre, qu'il y avait donc toute la partie technique qui est très importante, qui est très, j'imagine, c'est une sorte de machine de précision. Et tu disais que notamment Juan Carlos Sagal, qui est le metteur en scène, qui a adapté donc la pièce, le roman d'Alessandro Varico, lui, il ne connaît rien à ça. Il s'est laissé emporter, il avait peut-être une idée, il avait envie, mais...
Oui, c'est ça. Il a fait le script, il avait une idée. Et avec toute la nouvelle compagnie qu'on a, les jeunes quand nous sommes arrivés à la compagnie, il a dit, bon, voilà, c'est ça ce que je veux faire. Comment le faire? Je vous laisse ça à vous. Et c'est alors là qu'il a commencé un travail, un double travail. Par un côté, nous, les comédiens et Sagal, on faisait le travail
théâtral.
Théâtral, tu vois. On répétait avec une chaise et des tables et ça y est, c'est tout. Et de l'autre côté, il y avait tous les techniciens, le régisseur de multimédia, les dessinateurs théâtraux, un groupe de 20 personnes qui travaillaient tous les jours en train de penser comment faire pour mettre en scène ce que Sagal voulait. Alors ce travail, on travaillait toujours parallèlement, et un jour on est arrivés tous au théâtre et on a dit, bon, il faut tout coller, il faut faire la liaison, tu vois. Alors là, c'est la partie la plus compliquée, parce qu'il y avait des moments où qu'est-ce qu'il faut prioriser, le comédien ou la vidéo. Il y avait parfois que la vidéo, elle était déjà filmée, c'était déjà enregistré, et alors le comédien devait s'adapter à la vidéo. Et il y avait des fois où le temps de la scène ne pouvait pas changer, parce que c'est le temps de la scène, c'est une scène très importante, et alors il y avait la vidéo qui devait changer. Alors c'est cette liaison qui était la plus compliquée, et ce qui a donné plus de travail à nous.
Il y a juste une scène, peut-être que j'arriverai à rendre l'image, c'est une scène où l'on voit, il y a une voiture, donc, la voiture apparemment elle a une panne, donc on voit les trois comédiens qui eux sont vivants, présents donc dans le film où il y a la voiture avec le capot, on dit non, ça,
la fumée qui sort,
ouvert, qui, de la voiture qui est en panne, et finalement il a résolu la panne, et il baisse, l'acteur vivant, il baisse le capot de la voiture qui est dans le film. Et c'est vraiment raccord parfait. À ce moment-là, j'étais excessivement impressionné. Bon, on l'a dit assez. Thomas, tu disais au départ, justement, à propos notamment de ce que tu vas faire avec tes enfants, que justement ces jeux de l'improvisation étaient quelque chose qui t'intéressait d'explorer aussi. Mais au passage, tu disais que d'habitude, tu étais plein de partitions et tout était très... très calé, très écrit en général. Tu aimes bien passer de l'un à l'autre? Ça ne te déstabilise pas trop?
Si.
C'est pour ça que je le fais.
Bien sûr. Bien sûr. Non, mais c'est un vieux rêve que j'ai de monter sur scène et puis ne pas savoir ce qu'on va faire. Voilà. Mais justement, on parlait des technologies et je faisais un peu le parallèle. Chez Bach, il n'y a pas de clarinette. Parce qu'elle n'existait pas, voilà. Et même Mozart, quand il écrit ses symphonies, on le retrouve certaines où il n'y a pas de partie clarinette, parce que l'orchestre en question, où il allait faire sa création, n'avait pas encore de clarinette, qui était un instrument qui venait d'être inventé. Et je pense que tous ces apports de des nouvelles technologies issues de l'informatique, etc., deviennent suffisamment sophistiqués maintenant pour devenir réellement des nouveaux instruments, précisément où le procédé ne se voit pas, parce que souvent, quand on voit le procédé, on peut être très épaté, mais ça nous... Disons, ça nous fait perdre une partie de l'émotion, et d'après ce que vous dites, j'ai l'impression que dans la pièce où Étienne joue, de tout est intégré de sorte à ce qu'on oublie justement ces procédés. Voilà.
Et je pense qu'on va commencer tranquillement à partir. On va commencer à partir avec quelques travesuras de Thomas Gubitsch. Ça fait partie de quel travail, travesuras?
Travesuras, ça fait partie du dernier disque qu'on a fait en quintette, plus le versant tango actuel. Et en particulier, c'est un duo avec Juanjo Mossalini au bandoneon. Voilà.
Allez, on écoute un instant avant de se dire au revoir. C'est donc avec ces travesuras, comment on traduirait ça, travesuras et...
Espièglerie, peut-être.
Espièglerie, voilà, de Thomas Gubitsch, qui l'est toujours, espiègle, que nous allons nous quitter. Thomas, merci d'être venu, à très bientôt, j'espère.
Merci à toi, et à très bientôt.
Étienne, merci d'être venu partager avec nous quelques-uns des secrets de cette merveille qu'est Sinsangre, que l'on peut voir ces jours-ci à Paris et un peu partout en France. Merci à Bertrand Boeuf, qui était comme d'habitude aux manettes, toujours aussi entre l'improvisation et la mise en place réglée. Son cœur balance toujours. Et nous vous invitons à un prochain rendez-vous ici à la Maison de l'Amérique latine pour un nouveau Boulevard Franco-Latino. Hasta siempre. Ciao.
Franco-Latina.